Attention, attention, RH moins 10 secondes. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2,
la radio sauvage.
0.
Quelle heure est-il ?
Et 6 heures exactement.
Avant minuit, minuit.
Qu'est-ce qui se passe ?
Eh ben, il est 6 heures.
C'est l'heure. Il est l'heure.
6 heures.
Avant minuit.
Yes, ma.
C'est 7h minuit, alors je suis pas bon.
6h avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab,
la radio sauvage.
Mardi 13 janvier 2026, il est 6h avant minuit. Vous écoutez l'émission d'info locale de la radio Syllab, 88.4 à Rennes et Radio Boa, partout ailleurs, en Bretagne. Petit exercice de visualisation, tout le monde dans le studio. Imaginez un monde où il faut appuyer sur un bouton un jour sur deux pour confirmer que vous êtes encore en vie. Si vous n'appuyez pas, un message est transféré à vos proches pour leur demander d'appeler les secours. Ça vous fait rêver ?
S'inquiéter.
Pas tant
vraiment,
que ça. Ouais, pas tant
non,
que ça.
Je suis d'accord. Eh bien, sachez que cette dystopie est réelle. Grâce à la technologie, plus besoin de donner ou de prendre des nouvelles de celles et ceux qu'on aime. Tout passe par notification et l'idée convainc beaucoup de personnes dans l'empire du milieu, notamment en Chine et surtout des jeunes. L'application Are You Dead, êtes-vous mort en français, qui se télécharge pour la modique somme d'un euro, fait tabac. Elle est numéro 1 des applis payantes en Chine et numéro 2 aux États-Unis. Elle serait aussi dans les plus téléchargées en Europe. Des utilisateurs et utilisatrices en vie donc, et qu'ils confirment. Pourtant, socialement, ils et elles semblent bien en état de mort sociale. Je vous propose donc qu'on le télécharge pas et qu'on continue de se donner des nouvelles à l'ancienne. Tout le monde est d'accord ?
Avec plaisir.
On s'écrit sur
avec
votre
nos petits pigeons voyageurs de
Ah, j'aime bien ça, ça roule. Tout de suite, le flash de Roman.
La salve de missiles la plus intense depuis le début de l'année a frappé l'Ukraine. Cette nuit, la Russie a lancé 25 missiles et 293 drones. Au moins 4 personnes ont été tuées à Kharkiv. Ces frappes visaient principalement des infrastructures énergétiques. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky accuse la Russie de vouloir plonger le pays dans le froid. Déjà samedi dernier, des frappes russes ont privé une partie de la capitale de chauffage. De son côté, le ministère russe de la Défense affirme répondre à ce qu'il qualifie d'attaque terroristes de l'Ukraine contre des objectifs civils sur le territoire russe. Selon l'agence Bloomberg, l'Iran a livré à la Russie près de 2,7 milliards de dollars de missiles. L'Iran coopère avec la Russie et Donald Trump menace les partenaires de Téhéran. Alors qu'il vient de déclarer aux Iraniens et Iraniennes que, je cite, « l'aide est en route », Trump a aussi annoncé hier vouloir imposer des taxes de 25% à tout pays commerçant avec l'Iran, une menace visant avant tout la Chine, principal partenaire commercial de Téhéran. Pékin absorbe près de 90% du pétrole iranien, en grande partie écoulé de manière clandestine, selon France Info. C'est aussi un moyen d'isoler l'Iran et de fragiliser le régime des Mollahs. Aujourd'hui marque également le début du procès de l'Iranienne Mahdieh Esfandiari au tribunal de Paris. Elle est jugée pour apologie du terrorisme. L'issue de ce procès pourrait servir de monnaie d'échange pour le retour en France de Cécile Kohler et de Jacques Paris, détenus en Iran depuis leur arrestation en novembre dernier. Une frappe en plein cœur, une seule balle tirée à distance. Alain Orsoni, ancien dirigeant nationaliste corse et ex-président du club de football d'Ajaccio, a été assassiné hier. Les faits se sont produits à Véro, en Corse du Sud. L'homme de 72 ans assistait aux funérailles de sa mère lorsqu'un tireur embusqué a ouvert le feu. Le suspect est toujours en fuite. Figure du nationalisme, Alain Orsoni débute son parcours au Front de Libération Nationale Corse, dont il était devenu l'un des cadres après l'assassinat de son frère. Menacé depuis plusieurs années, il circulait en voiture blindée et disait craindre pour sa vie. Son fils, condamné l'année dernière pour tentative d'assassinat, est considéré comme l'une des figures du banditisme corse. L'enquête pour assassinat a été confiée au nouveau parquet national anticriminalité. La colère agricole ne faiblit pas. Près de 350 tracteurs de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles, FNSEA, et des jeunes agriculteurs ont manifesté ce matin devant Matignon. Escortés par des camions de CRS, ils ont emprunté les grands axes de la capitale pour dénoncer l'accord du libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur. Selon le président de la FNSEA, Arnaud Rousseau, les agriculteurs poursuivent deux objectifs. D'abord, obtenir un budget à la hauteur pour apporter des réponses à la crise agricole. Ensuite, décrocher un texte d'urgence pour l'agriculture. Une délégation de la FNSEA est retenue à Matignon depuis 14 heures. Le sport laisse les femmes sur le banc. Aujourd'hui, la mutuelle MGEN a publié une étude menée avec la plateforme Data Kantar sur le décrochage sportif chez les adolescentes. Réalisée du 21 septembre au 5 octobre 2025, avec 507 interviews de jeunes filles de 13 à 20 ans, l'enquête quantitative comme qualitative a de quoi interpeller. L'AFKEN a intercepté le sujet pour nous.
Une étude qui alerte adolescentes et sport, le grand décrochage. Voilà comment la MGEN et Kantar ont intitulé leur étude parue aujourd'hui. Sur leur infographie, un chiffre est mis en évidence. 45,2% des filles en France ont arrêté le sport malgré elles en 2025. Autrement dit, c'est près de la moitié des adolescentes qui se voient rejetées du monde sportif.
Si les filles ne sont pas à l'origine de ce décrochage, alors quelles en sont les raisons ?
Eh bien, toujours selon l'étude MGEN Kantar, il y aurait 4 facteurs à l'origine de ce phénomène. Je vous propose de faire la revue de ces freins qui empêchent les jeunes filles d'atteindre leur but.
Et le premier facteur, c'est la non-prise en compte des spécificités du corps féminin.
Lors de l'adolescence, le corps change et 63% des filles interrogées jugent que ces changements physiques rendent le sport moins agréable. 55% disent aussi cesser la pratique à cause de leurs règles. En fait, l'encadrement sportif ne répondrait que très peu à leurs besoins. Pour elles, les hommes et notamment les coachs sportifs ne comprennent pas la fluctuation du corps féminin. Entre fatigue et douleur, les filles nécessitent un modèle différent de celui des garçons, dont le corps et les performances sont constants.
2. Le milieu sportif place les jeunes filles sous pression.
C'est possiblement le point le plus marquant, celui du regard social sur les adolescentes. Lors de l'étude, une jeune fille en fait le témoignage. Le hand, c'est des mini-shorts, il pourrait mettre un short plus long, ou le choix entre short et survêtement, critique-t-elle. Parmi les adolescentes interviewées, 49% se disent alors mal à l'aise avec certaines tenues sportives imposées, jugées inconfortables ou sexualisées. 42% déclarent avoir déjà subi des comportements déplacés, comme des moqueries, du harcèlement ou du sexisme. 61% déclarent se sentir jugées lorsqu'elles font du sport, et 55% ne se sentent pas toujours en sécurité.
3. Un manque d'accessibilité.
Pour pallier le sentiment d'insécurité physique et psychologique, les safe places féminines manquent dans le sport. 33% des adolescentes n'ont pas de club féminin à proximité de chez elles. À tous ces freins s'ajoutent en plus les coûts des équipements, des déplacements et les emplois du temps chargés.
Enfin, le quatrième point reste celui de la compétitivité.
Tout à fait, dans un domaine où la compétition et la victoire comptent souvent plus que le bien-être, l'inclusion et l'empathie, les jeunes filles décrochent. Si dès leur puberté, les femmes apprennent malgré elles les impacts du sexisme dans toutes les sphères de la vie, le sport est vu comme un cercle de plus où elles seront jugées et mises à l'écart.
Mais alors que recommande la mutuelle MGEN pour faire face à cette tendance ?
C'est la partie qui compte le plus dans cette étude. Comment rendre le sport à nouveau inclusif pour les jeunes filles ? Inclusif et pas attractif, car dans cette étude, on comprend que beaucoup d'entre elles aiment le sport, mais s'y sentent exclues. Suite à leur étude quantitative avec la plateforme Data Kantar, c'est-à-dire une série de questions destinées aux 507 adolescentes, la MGEN a approfondi ses entretiens avec celles-ci. La mutuelle a recueilli leurs paroles, leurs idées. La liste est longue et nous vous invitons évidemment à vous renseigner directement sur le site de la MGEN afin de lire la voix des premières concernées. Cependant, en voici quelques exemples. Détaboutiser le sujet des règles, former les coachs au cycle menstruel et aux discussions safe et confidentielles, aborder la question des tenues en laissant les femmes s'exprimer à leur sujet, et enfin promouvoir la santé mentale et les bienfaits du sport, même sans compétition.
Merci l'AFKEN. Peut-être un nouveau pas vers la déconstruction du sport comme un ring purement masculin. Si l'étude vous intéresse, son rapport est disponible gratuitement sur le site de la mgen.fr. Avec près de 80 pages, chaque point y est développé plus largement, comme la méthodologie utilisée, les portraits des adolescentes, mais surtout leurs solutions face à ces freins. Un week-end d'enfer au CHU de Rennes. Deux personnes sont décédées dans les couloirs des urgences surbondées par manque de surveillance, selon les termes de soignants relayés par la CGT. À Rennes, en une journée, 250 passages sont actuellement recensés aux urgences. Pour un service prévu à 150, ça représente 30% d'activité en plus. En cause, l'épidémie de grippe et la grève des médecins libéraux. Malgré le déclenchement du plan blanc la semaine dernière, les urgences de Rennes restent saturées. Le chef de service, le professeur Louis Soula, dénonce une situation intenable et parle de patients et de patientes pris en otage. un jeune Rennais s'apprête à traverser 13 pays à vélo, direction Istanbul, départ prévu en avril. Objectif, rejoindre la Turquie en 3 mois. Il traversera l'Europe à bord de son vélo cargo électrique. Raphaël, 29 ans, est atteint d'une tumeur cérébrale, mais la maladie ne l'a jamais empêché d'avancer. Sous chimiothérapie, il a déjà parcouru le chemin de Compostelle, puis le sentier de Shikoku, au Japon. Aujourd'hui, il repart pour plusieurs milliers de kilomètres au profit de la recherche avec l'association pour la recherche sur les tumeurs cérébrales.
Après, moi, je vais partir très très light. Hein. Le sac à dos, prendre 3 paires de chaussettes. Je suis membre d'une association qui s'appelle l'ARTC. Et dans le cadre de cette association, j'organise un tour à vélo de Rennes jusqu'à Istanbul pour lever des fonds pour l'association qui faire de la communication autour des tumeurs cérébrales. Ce projet est né lors du précédent où je voyais beaucoup de vélos et je trouvais qu'ils étaient beaucoup plus libres, ils pouvaient aller plus loin, porter un peu plus de poids et donc j'ai eu envie d'essayer et d'envisager le projet, vers Istanbul. Alors pourquoi Istanbul ? C'est une ville où je suis déjà allé une fois. J'ai trouvé incroyable. Et donc, pour moi, c'était un peu significatif de dire, je pars de Rennes, c'est globalement la plus grosse diagonale pour arriver en Asie. Mes amis, même d'autres personnes, c'est ouvert un peu à tout le monde. Si quelqu'un veut me suivre un jour, ça, c'est hyper ouvert. Alors déjà, en fait, mon itinéraire est calibré en fonction des rendez-vous que j'ai dans les hôpitaux. Et donc, je ne vais pas passer par la route la plus jolie. Alors, moi, je finance mon quotidien, mais par contre, je suis sponsorisé et accompagné par plusieurs entreprises. Et du coup, c'est elles, par exemple, qui vont prêter le vélo, notamment le service communication de Rennes Métropole qui m'a soutenu. Et donc, tout cet argent, du coup, moi, je ne peux pas y toucher. C'est directement sur le compte de la RTC. C'est défiscalisable. Et puis après, moi, c'est des vacances. Hein, donc.
Un témoignage recueilli par Estelle Vasquez. La baisse générale des subventions publiques frappe le tissu associatif rennais. Un constat de France Bénévole 35, paru aujourd'hui dans le journal Ouest France. L'organisme a mené une étude auprès de 400 présidents et présidentes d'associations. Et les chiffres sont frappants. Entre 1500 et 2000 emplois ont été supprimés en un an, plus d'un tiers des associations ont dû réduire leurs activités, voire les arrêter, et 240 associations n'ont pas renouvelé des contrats ou remplacé des départs. Conséquence, 8% des associations employeuses ont enregistré des démissions, des salariés découragés par l'incertitude financière et la recherche permanente de financement.
Merci beaucoup Romane, à la semaine prochaine pour un nouveau Flash.
À la semaine prochaine.
Quelle heure est-il ?
6h.
Minuit, pourquoi ?
Syllabe.
Il est midi.
La radio sauvage.
Minuit.
01.
Et à minuit, plus personne.
6h avant minuit.
C'est l'heure de l'interview et ce soir, l'Afghan reçoit un ancien prof à lui. Oulalalala.
Ce soir, nous recevons Sylvain Delouvet. Bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes maître de conférences en psychologie sociale à l'université de Rennes 2, spécialiste des croyances collectives et de la désinformation. En novembre dernier, vous avez reçu votre médaille CNRS France Université pour l'émission « Sommes-nous tous racistes ?» dont nous allons parler ce soir. Diffusée sur France 2 en juin 2025, vous partagez l'écran avec Jamy Gourmaud, Marie Drucker et le comédien et réalisateur Lucien Jean-Baptiste. C'est une étude qui a beaucoup fait parler d'elle. Je vous propose d'écouter un morceau d'introduction.
Pour cette émission exceptionnelle, présentée par Marie Drucker et Jamy Gourmaud, nous avons imaginé un dispositif totalement inédit. 50 volontaires vont participer à des expériences étonnantes.
Voilà, voilà, c'est là que ça devient intéressant, c'est là que ça devient intéressant.
Sans savoir qu'elle porte sur le racisme.
Je me demande dans quoi j'ai mis les pieds.
Pour commencer, Sylvain Delouvet, de quoi elle naît cette étude ?
Cette émission, je pense que vous voulez y parler. Alors cette émission, ça fait 3 ans. Qu'elle était en gestation. C'est un producteur qui est venu me chercher avec l'objectif de parler du racisme de manière un petit peu différente. Parce qu'évidemment, c'est un objet multifactoriel. Hein. On ne met pas de côté les facteurs économiques, sociaux, historiques, etc. Mais là, l'idée était de donner un regard différent de ce qu'on voit d'habitude à la télévision. Donc on a passé presque 3 ans effectivement avec les producteurs, avec France Télévisions et France 2 en particulier, donc ils se sont tout de suite montrés très intéressés pour monter complètement ce dispositif dans lequel je suis donc le conseiller scientifique. C'est moi qui ai proposé ces expériences-là, qui les ai mises en scène, qui les ai donc après aussi décryptées en plateau. Pour aboutir donc à cette émission « Sommes-nous tous racistes ?», qui est en fait un point de départ, hein, puisque là, très prochainement, en février ou en mars, on devrait voir une deuxième émission qui s'appellera « Sommes-nous tous sexistes ?», sur le même principe, donc avec une autre invitée, et puis évidemment avec d'autres expériences, avec un autre échantillon, mais toujours avec cette idée de vulgariser, d'expliquer les connaissances psychologiques, psychosociologiques autour de ces thématiques.
Et donc, c'est une émission qui recense 50 participantes et participants guidés par Jamy tout au long de l'émission. Mais pour une émission faussement intitulée « Les mystères de notre cerveau » afin de ne pas influencer les comportements des participantes et participants, écoutons un extrait de la première expérience, une salle d'attente. Au milieu sont assis 2 hommes habillés exactement pareil, mais l'un est noir, l'autre blanc.
Nous avons truffé une fausse salle d'attente de caméras cachées. Nos participants vont être invités à y entrer un par un pour remplir un petit questionnaire. Mais ce n'est qu'un prétexte destiné à détourner leur attention sur le véritable objectif de notre expérience, observer de quel côté ils vont choisir de s'asseoir.
Comment est-ce que vous expliquez qu'on ne voit qu'un seul candidat s'asseoir à côté du comédien noir ? Pourtant, il y avait aussi des candidates et des candidats de couleur, dont des personnes noires.
Oui, alors, en fait, ce qu'on explique dans l'émission, c'est qu'ici, ça n'est pas une illustration d'un cas de racisme en tant que tel, ou tel qu'on pourrait l'imaginer, mais plutôt l'idée qu'on va chercher à se rapprocher de quelqu'un qui nous semble similaire, qui nous semble proche de nous. Et le « nous semble » est important, c'est-à-dire à la manière dont je me projette dans la proximité que j'ai avec cet individu. Autrement dit, si je dois choisir, je vais préférer me mettre à côté, ou je vais préférer aller voir quelqu'un qui a des attributs qui me ressemblent. Donc là, évidemment, la couleur de peau, c'est la chose la plus marquante, mais on pourrait essayer d'avoir uniquement les habits, hein, la manière dont les gens sont habillés ou dont ils s'expriment, pourquoi pas. Donc là, on a cette illustration de la recherche de la similarité plus que de l'évitement de la différence. Alors dans notre groupe, les personnes noires n'ont pas participé à cette première caméra cachée. Et puis les autres personnes, elles ont choisi effectivement de s'asseoir tout de même à côté de la personne à la peau blanche, ce qui montrerait qu'elles supposaient une plus forte proximité avec elles.
Et à juste titre, Lucien Jean-Baptiste s'inquiète de ce genre de comportement, bien qu'il soit inconscient, voire instinctif, lors de phases de recrutement ou d'attribution de logement. Comment est-ce qu'on évite cela ? Est-ce que c'est évitable ?
C'est évitable d'abord par la loi, hein, notamment sur la question du CV anonyme. C'est vrai que se faire rejeter pour alors une embauche ou même, parlons plus simplement avant, juste un stage, simplement parce qu'on a un nom à connotation étrangère ou parce qu'on habite dans un lieu qui pourrait être perçu, qui pourrait être stigmatisé en quelque sorte, ben ça c'est déjà une première possibilité. Parce qu'en fait, si vous passez ce premier fil, cette première barrière, vous avez l'occasion de pouvoir défendre votre dossier ou qui vous êtes. Bien entendu, si vous êtes en face de quelqu'un qui est raciste, ça ne fait que repousser le problème puisque de toute façon, il trouvera une autre manière de vous discriminer. Donc la loi ne va pas permettre de tout changer. Elle peut permettre dans certains cas de pouvoir améliorer en faisant aussi ce que certaines associations font avec du testing à l'entrée de boîtes de nuit, par exemple, ou dans d'autres lieux. Et ce qu'on voulait montrer aussi, nous, avec cette première caméra cachée, c'était l'inscription dans la vie quotidienne. On avait aussi envie, et Lucien l'évoque, hein, de se dire, bah, demain, quand je vais prendre le bus, quand je vais prendre le métro, quand je vais arriver dans une salle d'attente, que je sois conscient de ce que je vais faire. Et on a eu plein de retours. Hein. Alors évidemment, nos 50 participantes et participants là, avec qui j'ai fait un long débriefing à la fin de l'émission pour leur expliquer ce qui était un stéréotype, ce qui était un préjugé, puisque effectivement ils ne savaient pas pourquoi ils étaient là. Mais aussi après, en retour, on a eu beaucoup de gens qui nous ont dit bah, « maintenant, depuis, je réfléchis à 2 fois en fait, avant de m'asseoir quelque part ». Et cette prise de conscience, pour nous, elle est importante. C'est-à-dire qu'il s'agissait de décrypter les mécanismes, pas d'y mettre fin, comme par miracle, avec une émission de télé. Mais simplement que les gens se réfléchissent et se disent « Ah bah oui, tiens, finalement, là, quand je fais ça, ça peut être vu comme de la discrimination, ça peut être appuyé sur des stéréotypes. Comment je peux les remettre en cause? Comment je peux travailler en fait sur moi?
Et avant de passer aux expériences suivantes, aux extraits suivants, est-ce qu'on pourrait l'avoir justement cette définition des stéréotypes quand on parle de biais cognitif? C'est un terme qui revient souvent. On parle de quoi? C'est un dysfonctionnement psychologique ou un mécanisme primitif?
Les biais cognitifs, on parle aussi d'heuristique de jugement, c'est un raccourci du cerveau. Pour aller très vite, on est confronté à une masse d'informations continue, et donc on ne peut pas se permettre, notre cerveau ayant des ressources limitées, on ne peut pas se permettre de tout traiter de manière approfondie. Donc on choisit, la plupart du temps, pas tout le temps fort heureusement, mais on choisit d'utiliser des raccourcis de pensée, donc des heuristiques. Le problème de ces raccourcis de pensée, ce que certains appellent des biais cognitifs, c'est qu'ils peuvent et qu'ils entraînent souvent des erreurs. Parce qu'on raisonne trop vite. Dans ces biais cognitifs, on en connaît certains qui sont devenus célèbres, notamment avec la pandémie, ce qu'on appelle le biais de confirmation d'hypothèse, l'idée que les gens vont chercher à renforcer leurs croyances en cherchant des informations qui les confirment plutôt que des informations qui les infirment. Mais il y a aussi, vous avez raison, les stéréotypes. Le stéréotype, c'est simple, c'est l'idée d'appliquer des traits, des caractéristiques à un individu du simple fait de son appartenance à un groupe. Parce que je sais que quelqu'un est français, alors immédiatement, je vais lui attribuer un certain nombre de caractéristiques. Et on voit ici que c'est bien un raccourci du cerveau, parce qu'il y a évidemment certains éléments qui peuvent être tout à fait justes, mais il y en a beaucoup qui sont faux. Et puis, ce n'est pas parce qu'on appartient à un groupe qu'on aurait les mêmes traits, les mêmes caractéristiques, les mêmes attributs que tous les membres de ce groupe-là.
Et votre deuxième expérience, donc, elle va plus loin. Une partie du groupe participant va devoir donner une peine à un jeune homme blanc. L'autre partie du groupe à un jeune homme maghrébin. Les chefs d'accusation sont exactement les mêmes, encore une fois. Écoutons les résultats.
Résultat, l'accusé d'origine maghrébine a écopé d'une peine de prison supérieure à celle de l'accusé blanc. Mais plus encore, les participants ont été 5 fois plus nombreux à lui donner la peine maximale de 15 ans d'emprisonnement.
Choisir d'approcher plutôt une personne qui nous ressemble, c'est une chose, mais pénaliser 4 fois plus une personne différente, c'en est une autre. Comment vous expliquez ça aussi?
Alors là, typiquement, on est dans des cas de discrimination. On est dans des cas de discrimination qui sont portés par la couleur de peau. Et ce qui est intéressant avec cette étude, c'est que c'est la seule de toutes celles qu'on présente dans l'émission qui ne sont pas directement issues d'une recherche scientifique avec de nombreux résultats. C'est en fait une étude qu'on a reprise à l'École nationale de la magistrature. C'est un exercice auquel les futurs magistrates et magistrats sont confrontés. Justement pour prendre conscience que parfois, au-delà des preuves matérielles, au-delà d'une rationalité qu'on voudrait totale, eh bien, il y a des indices extérieurs qui peuvent influencer le jugement. Alors justement, les futurs magistrates et magistrats, il y a beaucoup d'ateliers, d'exercices qui sont faits avec eux pour déconstruire ces éléments-là et pour essayer de ne pas être impactés. Ici, on n'avait pas des futurs magistrates et magistrats, on avait des citoyens, des citoyennes lambda, ordinaires, qui, on voit pour certains, utilisent les seuls éléments qu'ils ont à leur disposition. Puisqu'on leur donne finalement peu de choses, on leur dit qu'il a été jugé, condamné, et on leur demande juste une peine de prison. Les seuls éléments qu'ils ont, ce n'est pas un dossier, ce ne sont pas des preuves, c'est la photographie. Et dans ces cas-là, quand on n'a pas d'autres indices, on va s'appuyer sur les indices qui sont à notre disposition. Là, des indices visuels. Le problème, c'est qu'en s'appuyant sur ces indices-là, on s'appuie surtout sur certains stéréotypes ou préjugés véhiculés par des appartenances ethniques.
Pour comprendre nos biais cognitifs, vous allez encore plus loin avec une expérience beaucoup plus extrême. Ça monte crescendo dans l'émission et les candidates et candidats doivent tirer sur des personnes armées et éviter les otages. Certains sont noirs, d'autres blancs.
Les résultats de notre expérience sont très clairs. De manière totalement involontaire, nos participants ont tiré près de 4 fois plus sur les figurants des armées noires ou d'origine maghrébine que sur les figurants des armées blancs.
Donc il s'agit d'une expérience, vous le dites dans l'émission, qui a été réalisée aux États-Unis afin de mesurer à quel point les policiers américains étaient plus enclins à tirer sur des citoyens et citoyennes noires. Nos biais, même si au départ, ils peuvent sembler un peu naïfs et involontaires, est-ce qu'ils ne représentent pas un danger pour nos vies en société quand on voit ces expériences?
Il représenterait un danger, en fait, si on n'en est pas conscient. Et puis, si on n'essaye pas de les prendre en compte et puis aussi de lutter d'une certaine manière contre ces biais. Alors, évidemment, quand on parle des stéréotypes, quand on parle de l'automaticité, ça, c'est difficile de lutter contre quelque chose qui est automatique. Mais déjà, prendre conscience qu'il existe chez nous un certain nombre de stéréotypes ou de préjugés, c'est déjà une première manière de lutter contre. Et puis après, on peut aller encore plus loin avec certains métiers, certaines professions qu'on devrait encore plus encadrer. Alors, vous l'avez parfaitement dit, hein, ce fameux biais du tireur, comme on l'évoque, il provient de nombreuses études aux États-Unis qui montrent que les policiers ont tendance à tirer beaucoup plus sur des personnes afro-américaines que des personnes blanches. On a malheureusement dans l'actualité des exemples assez courants. Donc là, ça fait référence, on va dire, plutôt à un encadrement d'une profession et à un travail avec ces professionnels pour lutter contre leurs stéréotypes ou leurs préjugés. Mais ce qui était important pour nous avec cette étude, c'était de montrer le caractère automatique. Parce que, en fait, là, personne ne peut contrôler. Il s'agissait, alors c'était présenté sous un jeu format ludique, j'invite d'ailleurs toutes les auditrices et tous les auditeurs à aller regarder le replay de l'émission est disponible et puis on le trouve sur des plateformes de diffusion en ligne, de montrer qu'ici on a un élément totalement automatique, c'est un jeu, on doit tirer sur des gens, enfin on demande de tirer sur des gens qui sont armés, de ne pas tirer sur des gens qui ont des téléphones et qui ne sont pas armés, donc on ne peut pas contrôler en fait. On se prend même au jeu, hein. Vous l'avez vu dans l'émission, hein. Il y en a qui même de temps en temps trouvent ça presque très drôle. Là où ça devient moins drôle, c'est quand on constate que finalement, pour un certain nombre de nos participants, les personnes noires ou maghrébines sont plus touchées que les personnes blanches.
Et avant de conclure, je vous propose un dernier extrait. À mes yeux le plus touchant, il s'agit d'un morceau de l'émission Noir en France sorti en 2022 sur France 2. Vous y faites référence dans l'émission Sommes-nous tous racistes également. La scène, vous la connaissez certainement toutes et tous. On y demande à de jeunes filles noires quelle poupée elles préfèrent, la noire ou la blanche.
Quelle poupée tu préfères ?
Celle-là.
Celle-là ?
Parce que ma sœur, elle joue que avec ses poupées blanches.
Ce serait la blanche moi, parce que j'aime bien ses yeux bleus.
Quelle est la poupée la moins jolie ?
Celle-là.
Pourquoi ?
Je sais pas. Parce qu'elle est noire.
Quelle est la poupée la moins jolie ?
La noire. Parce que j'aime pas trop le noir. Parce que tous les enfants de mon école, ils sont blanches. Et moi, quand je serai grande, je mettrai de la crème pour devenir blanche.
Ce sont des réponses qui laissent sans voix nos biais cognitifs ici racistes qui s'étendent jusqu'au bien-être, jusque dans la voix des enfants. Comment les enfants subissent les conséquences de nos comportements ? D'où leur viennent ces réponses des parents, des camarades ?
Ben oui, la réponse, elle est dans votre question. C'est-à-dire que les enfants, ils sont modelés par leur environnement. Ils sont modelés par leurs parents, ils sont modelés par les adultes, par ce qu'ils voient dans leur environnement, c'est-à-dire les jouets auxquels ils sont confrontés. Et on connaît bien les stéréotypes de genre, en particulier dans les jouets entre filles et garçons, par la publicité, par les médias, par la télévision, par les dessins animés, par le cinéma. Et donc tout cet environnement qui véhicule un certain nombre de préjugés, de stéréotypes, les enfants sont comme des éponges. Donc eux, ils vont immédiatement absorber ça et sans filtre, on le voit hein, dans leurs paroles. Ces petites filles, elles s'expriment de manière tout à fait naturelle sans se rendre compte de ce qu'elles sont en train de dire. Alors fort heureusement, en grandissant, elles changeront certainement d'opinion, de parole aussi, surtout. Elles prendront conscience de ce que ça signifie. Et là, moi, je voudrais le voir sur le côté, on va dire, presque porteur d'espoir. On voit le côté négatif, que les enfants, je le disais, sont des éponges des adultes. Mais ça veut dire aussi que si les adultes, que si l'environnement change, se modifie, que si les représentations stéréotypées cessent d'apparaître autant dans les journaux, au cinéma, dans les œuvres de fiction, eh bien, on peut aussi, avec l'éducation, faire changer le regard des enfants. Et les enfants, c'est les futurs adultes de demain.
Une déconstruction de nos biais qui doit passer par l'éducation des plus jeunes. Sylvain Delouvet, merci beaucoup pour vos réponses et votre présence. Pour rappel, vous avez reçu en 2025 la médaille CNRS France Université pour l'émission Sommes-nous tous racistes, toujours disponible sur France TV et d'autres plateformes. Vous préparez également une nouvelle émission, Sommes-nous tous sexistes ?
C'est exactement, qui va être diffusée en février ou en mars, en tout cas très bientôt. Elle est déjà tournée.
Très bien. Eh bien, merci beaucoup et bonne soirée à vous.
Merci.
6 heures
avant minuit.
Les données de 9 Français sur 10 ont-elles fuité en 2025? On répond à cette question dans notre chronique Fake News du mardi avec Héloïse.
Eh oui, Lafkienne, 9 Français sur 10 auraient vu leurs données fuiter l'année dernière. Ce chiffre a beaucoup circulé sur les réseaux sociaux en ce début d'année. 2025 a effectivement été marqué par des cyberattaques et des vols de données spectaculaires. Parmi les victimes, France Travail, Mondial Relais, le ministère des Sports, Bouygues Télécom ou encore Auchan. Dans une publication vue plus de 373 000 fois sur le réseau X, un internaute affirme que 600 millions de données personnelles cumulées de Français et Françaises seraient aujourd'hui entre les mains des cybercriminels. Selon lui, 9 personnes sur 10 en France seraient donc concernées, faisant de 2025 une véritable année noire en matière de cybersécurité. Ces chiffres ont notamment été relayés fin décembre par le gentil hacker Saxe, de son vrai nom Clément Domingo, devenu récemment plus médiatique grâce à sa participation à l'émission Loup-garou sur Canal+. Mais avant de tirer des conclusions alarmistes, il faut comprendre pourquoi les cyberattaques se multiplient. La numérisation est désormais partout. Administration, entreprise, services du quotidien, cette dépendance au numérique favorise mécaniquement la cybercriminalité. Les attaques sont devenues plus accessibles, notamment grâce à de nombreux tutoriels disponibles en ligne. Et surtout, il y a beaucoup d'argent à se faire, soit en demandant des rançons, soit en volant des données personnelles pour les revendre ensuite. Les fuites concernent généralement des noms, des coordonnées, des mots de passe ou encore des documents administratifs. Ces données se retrouvent souvent sur le darknet via des annonces publiées sur Telegram ou des forums spécialisés. Mais au-delà de l'aspect financier, certaines cyberattaques peuvent aussi avoir des objectifs politiques. Les données peuvent servir à la désinformation ou à la déstabilisation. La cyberattaque contre La Poste en décembre 2025, par exemple, a été revendiquée par des hackers pro-russes. Les auteurs de ces attaques peuvent donc être très différents. Des individus cherchant un profit financier, des activistes poursuivant des objectifs politiques ou encore des puissances étrangères cherchant à espionner. Pardon, il y a un petit dessin sur ma feuille. À espionner ou déstabiliser. Face à ces éléments, il est important de remettre en perspective les chiffres qui circulent. Premier chiffre, 9 Français sur 10 concernés par la cybermalveillance. Ce chiffre est souvent sorti de son contexte, il ne concerne pas spécifiquement l'année 2025 et ne parle pas uniquement de fuite de données. Il provient en réalité d'une étude publiée en 2019 par le service gouvernemental cybermalveillance.gouv.fr. Cette étude, menée auprès de 4500 personnes représentatives de la population française...
Non.
C'est votre faute là. C'est la faute des petits dessins. Cette étude menée auprès...
Tu veux que je prenne le...
C'est une vengeance, c'est ça. Non, ça va aller. Cette étude, donc, très sérieuse, menée auprès de 4500 personnes représentatives de la population...
Tiens, je vais prendre le relais. Cette étude menée auprès de 4500 personnes représentatives de la population française mesurait l'exposition à la cybermalveillance au sens large, réception de SMS frauduleux, tentatives de phishing, virus informatique, usurpation d'identité ou encore fuite de données. Recevoir un faux message de livreur suffit donc à être comptabilisé. Ce chiffre est encore utilisé aujourd'hui dans les campagnes de prévention, notamment lors du cybermois. Deuxième chiffre, 600 à 700 millions de données piratées. Selon l'entreprise de cybersécurité Surfshark, plus de 703 millions de comptes appartenant à des Français et Françaises ont été compromis depuis 2004, soit sur plus de 24 ans. Cela place la France au 4e rang mondial. Mais attention, il s'agit de données, pas de personnes. Une même personne peut apparaître plusieurs fois donc. Contrairement à ce qui a été affirmé, 600 millions de données n'ont pas été piratées en 2025. Surfshark estime plutôt qu'environ 29 millions de données ont fuité sur les 3 premiers trimestres de l'année. C'est beaucoup, mais très loin des chiffres avancés. À l'échelle mondiale, les données françaises représentent environ 3% des fuites totales.
Je peux pas.
Je fais mon pied. Je fais mon pied. Conclusion, non, les données de 9 Français sur 10 n'ont pas fuité en 2025. Le chiffre existe, mais il est mal interprété. Les filles autour de la table, est-ce que vous savez ce qui a fuité, sinon en 2025? Non?
Vraiment pas.
Bah, le numéro de téléphone,
oh,
de Syllab.
Il a fuité.
Et il a fuité. Est-ce qu'on s'écouterait pas le répondeur tout
Allons-y.
De suite?
Téléphone.
Allô? Allô?
Syllab, la radio sauvage.
Pas de message.
Je crois qu'il est vide. Oh. Mais laissez-nous un message vocal.
Bah oui. Hein? Appelez tout de suite si vous avez quoi que ce soit à raconter, si vous voulez réagir aux chroniques, aux fous rires d'Héloïse et Romane pendant l'émission. N'hésitez pas à appeler le 02 30 96 25 35. Je répète, 02 30 96 25 35. Je vous rappelle aussi que Célab vous propose de gagner une place pour un spectacle du festival Autre Mesure de Rennes, un festival célébrant la musique contemporaine, sa diversité et surtout son accessibilité pour toutes et tous. On vous propose donc de gagner une place pour le concert Stimmung du compositeur allemand Stockhausen par l'ensemble Oxymor à la chapelle du Conservatoire de Rennes le dimanche 25 janvier 2026 à 15h. Pour découvrir ça, il suffit de rentrer le bon mot de passe qui est une note. Est-ce que vous l'avez ?
Si bémol majeur.
C'est si bémol majeur sur c-lab.fr. Merci Maud pour la technique.
Si lab. La radio sauvage.
Quelle heure est-il ?
6h exactement.
Avant minuit.
Qu'est-ce qui se passe?
Eh ben, il est 6 heures.
Le magicien n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il arrive précisément à l'heure prévue.
6 heures. Avant minuit.
Ils sont partis dans les couloirs d'Europe.
6 heures avant minuit, 18h, 19h, sur Syllab, la radio sauvage.